Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. Au sommaire donc de cette conférence de presse, nous allons évoquer dans un premier temps l'anniversaire de Radio Okapi qui est célébré ce jour, mercredi 25 février. Nous allons également parler du soutien concret de la MONUSCO à la CENI dans le cadre de l'organisation des élections à venir. Et nous aurons ensuite différentes informations en provenance des composants de la MONUSCO. Puis après, nous donnerons la parole à l'équipe pays avec, dans un premier temps, développement, puis le volet humanitaire. Le colonel Félix Prosper Bass, ici présent, nous fera un point de la situation militaire dans le pays. Et puis enfin, notre invité, comme vous le voyez ici, est le général Abdallah Wafi, secrétaire général adjoint, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC. C'est un peu triste de vous le dire, mais il assiste avec nous à sa toute dernière conférence de presse des Nations Unies en RDC. Donc avec lui, nous allons lui donner la parole à la fin de nos différentes présentations pour qu'il vous donne son mot. Et puis ensuite, il va nous aider dans la session questions-réponses, bien entendu. Voilà donc pour l'essentiel des titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec les informations relatives aux différentes composantes de la MONUSCO. Information publique tout d'abord. Radio Okapi célèbre donc ce mercredi 25 février ses 13 ans d'existence. Cette radio des Nations Unies RDC est devenue au fil des ans une véritable radio nationale avec une couverture sur l'ensemble du pays. Son audience est estimée selon les tout derniers sondages en notre possession à 24 millions d'auditeurs par semaine. Cette radio, qui a une coloration apolitique, s'efforce chaque jour d'équilibrer le contenu de son offre éditoriale en donnant la parole à toutes les couches sociales de la population ainsi qu'à tous les courants politiques et d'idées. Le traitement de l'information est donc impartial et la charte éditoriale de Radio Okapi interpelle tous les journalistes exerçant au sein de cette radio à observer cette neutralité et cette impartialité. C'est ce qui fait d'ailleurs la force et la particularité de Radio Okapi. Au-delà du partage et de la diffusion de l'information au grand public, Radio Okapi se positionne comme un outil de développement au service donc de la RDC. Tous les sujets sont abordés pour informer, éclairer, aider les populations qui lui font confiance, les sujets économiques, de santé publique, d'environnement, de bonne gouvernance, de promotion des artistes locaux, quel que soit d'ailleurs leur domaine de spécialité, ainsi que de promotion de culture en général. Ce professionnalisme a été longtemps forgé par le partenariat développé avec Fondation Rondel, une ONG suisse travaillant dans le domaine de la communication et du développement des médias en zone de conflit. La fin prochaine de ce partenariat ouvre cependant la voie à une modernisation de Radio Okapi qui s'inscrit donc résolument dans la pérennisation de cette radio des Nations Unies en RDC. Bon anniversaire une fois de plus à Radio Okapi et qu'elle continue à être au service de la population congolaise tout entière. Section affaires politiques et électorales, réunion hier mardi 24 février du groupe de coordination électorale qui regroupe la MONUSCO, le PNUD et les partenaires techniques et financiers. L'objectif était la mise en place du projet d'appui au cycle électoral. Jeudi dernier, la section électorale, ou du moins l'unité électorale au sein donc de la section affaires politiques et électorales, a aussi organisé une réunion de la Task Force intégrée électorale sur la logistique électorale présidée par Mustapha Soumaré, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC. De façon spécifique, les participants ont fait l'évaluation du soutien logistique de la MONUSCO à la CENI, de la finalisation de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de la stabilisation des cartographies opérationnelles ainsi que du budget des opérations électorales. Elle a également examiné les progrès accomplis dans la mise en place du projet PASEC du PNUD et au niveau de la sécurisation du processus électoral. La CENI a souligné au cours de cette réunion l'importance du soutien logistique de la MONUSCO à la réussite du processus électoral. Rappelons que, en ce qui concerne l'assistance logistique de la MONUSCO au processus électoral, la MONUSCO a, dans le cadre de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles dans 11 provinces du pays, effectué des vols spéciaux de transport par voie terrestre sécurisée, le déploiement de plus de 80 tonnes de matériel électoral, ainsi que des kits de formation, ordinateurs, Began, GPS, Touraya, formulaires de collecte des données, documents de sensibilisation, etc. De Kinshasa donc vers 18 hubs logistiques de la CENI. Elle a également transporté 17 tonnes de matériel électoral, donc dans 18 hubs logistiques vers des antennes de la CENI à accès difficile et pouvant s'effectuer uniquement par voie aérienne. La MONUSCO a aussi assuré le transport par voie aérienne des agents et fonctionnaires de la CENI pour des opérations électorales en cours. Section genre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé vendredi 13 février, en collaboration avec la section genre donc et l'information publique de la MONUSCO, une séance de sensibilisation de proximité sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre dans le secteur de Lubuyabera, situé à 15 km de Kisangani. L'objectif était de soutenir la population de Lubuyabera et de l'aider à prévenir et lutter contre les us et coutumes, ainsi que les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. 54 participants, dont 4 femmes, représentant l'administration publique, la notabilité, les associations de femmes et de jeunes, ont été sensibilisés sur le genre au regard de l'application de la loi contre les violences sexuelles. Selon la section genre, il était important de se pencher sur les formes de violences basées sur le genre ainsi que les différentes résolutions des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité et sur toutes les autres formes de violences contre les femmes. Police MONUSCO, au cours de la semaine écoulée, 5 unités de police constituées de la police MONUSCO dans l'est de la RDC ainsi qu'à Kinshasa ont effectué 64 patrouilles de sécurité autour des installations des Nations Unies, 89 patrouilles conjointes avec la police nationale congolaise PNC, 13 patrouilles sur les axes stratégiques, 172 patrouilles simples dans les zones de compétence sans la PNC, 14 patrouilles autour des camps de déplacés, 2 déploiements préventifs autour du quartier général de la MONUSCO et 17 escortes de staff de la MONUSCO ainsi que des personnalités VIP. Le 19 février dernier à Bounia, 60 officiers de police constitués de l'Inde ont circonscrit un incendie qui s'était déclaré aux côtés de Lock Base. Après une heure, ils ont pu éteindre le feu avec leur camion citerne. À Mambasa, dans la province orientale, la troisième session de formation dispensée par la police MONUSCO au profit de 45 agents de la PNC, dont 2 femmes, a démarré le lundi 23 février dernier et va se poursuivre jusqu'au 7 mars prochain. Le programme prévoit des modules spécifiques en gestes et techniques professionnelles d'intervention, en maintien et rétablissement de l'ordre public, sur l'éthique et la déontologie policière, sur les droits de l'homme, sur la protection de l'enfant et les violences sexuelles basées sur le genre. Nous allons finir cette présentation avec cette information concernant la stabilisation. Dans le but de consolider la paix dans le district de l'Ituri, grâce au dialogue démocratique et la relance économique, un projet dénommé « La paix et la voie du développement » a été lancé la semaine dernière à Mambasa, en province orientale. Ce projet vise principalement à stabiliser l'axe Mambasa-Ipulu-Niania dans la restauration de l'autorité de l'État et la résolution des conflits latents, ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes de violence sexuelle. Évalué à 5 millions de dollars américains, ce projet est financé en grande partie par le Fonds pour la consolidation de la paix, complété par le gouvernement norvégien. Il est mis en œuvre conjointement par le gouvernement de la RDC, les organisations locales dont le réseau Aki Amani et l'association de protection de l'enfance du Congo APEC et des ONG internationales ainsi que des agences onusiennes chapeautées par UN Habitat pour une période préliminaire de 18 mois. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation qui appuie le STAREC, le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant de conflits armés. D'autres détails dans le communiqué qui vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Voilà donc pour les informations des différentes composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite aux informations avec l'équipe pays. Tout d'abord, le développement avec Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour et c'est à vous.
Merci Charles, bonjour à tous et tous mes voeux d'heureux anniversaire à Radio Okapi et par conséquent à ses fidèles auditeurs. Et bonjour à Goma aussi. On commence avec la Cour pénale internationale. Jeudi 19 février, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a reprogrammé le prononcé de son arrêt concernant l'appel à l'encontre de l'acquittement dans l'affaire Le procureur contre Mathieu Njunjolo Choui. Initialement prévu hier, mardi 24 février, l'audience a été reportée au vendredi 27 février à 10h, heure de La Haye, pour des raisons organisationnelle inattendue. Pour rappel, M. Mathieu Ngudjolo-Choui, ancien dirigeant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes FNI, a été acquitté le 18 décembre 2012 de 3 chefs de crime contre l'humanité, meurtre, viol et réduction en esclavage sexuel, et de 7 chefs de crime de guerre, le fait de faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, homicide intentionnel, destruction de biens, pillage, réduction en esclavage sexuel et viol, prétendument commis le 24 février 2003 lors de l'attaque contre le village de Bogoro dans le contexte du conflit en Ituri en RDC. Le 21 décembre 2012, Mathieu Ngudjolo-Choui a été mis en liberté. Le 20 décembre 2012, le bureau du procureur a interjeté appel à l'encontre du jugement. Deuxième information émanant de la CPI, la chambre d'appel de la CPI a annoncé hier après-midi qu'elle rendra en audience publique le mardi 3 mars à 11h30, heure de La Haye, son arrêt concernant les réparations pour les victimes dans l'affaire à l'encontre de Thomas Lubanga Diilo. Je vous signale que dans le transcript qui vous est envoyé, vous trouverez les détails sur ces informations, de même que les sites où vous pouvez suivre les audiences en direct. Concernant le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, demain, le PNUD va lancer officiellement avec les autorités congolaises le rapport national sur le développement humain, RNDH 2014, dont le thème est la cohésion nationale pour l'émergence de la République démocratique du Congo. La cérémonie sera présidée par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Matata Ponyo. En choisissant la thématique de la cohésion nationale pour l'émergence de la RDC, les autorités nationales indiquent leur volonté de rompre définitivement avec le cycle de violence que connaît le pays depuis tant d'années et d'assurer la paix pour aboutir à un renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la sécurité, le respect des droits humains, l'équité genre, la stabilité macroéconomique, le développement humain durable et la croissance inclusive. Ces rapports nationaux sur le développement sont des outils qui servent au débat politique nationale, qui offrent aussi des analyses novatrices et des recommandations politiques. Toujours à propos du PNUD, hier et avant-hier, sous le patronage du Premier ministre, le ministère du Genre, Famille et Enfants a lancé la première édition du Forum national des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre. L'objectif était de mettre en place un système de coordination orienté vers une gestion axée sur les résultats pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Pour cela, il faut procéder à un état des lieux au niveau national et provincial des questions relatives au genre, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes, la participation économique des femmes, la participation politique et le leadership féminin, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre en RDC. Pour ces activités, il faut également planifier la budgétisation. Ceci a été en débat pendant les deux jours, 23 et 24 février. Et enfin, le forum lance une étude sur la masculinité en RDC pour analyser ses fondements, la façon dont les hommes et les femmes perçoivent leur rôle et leurs responsabilités, identifier les spécificités socioculturelles des croyances et des attitudes des hommes et des femmes, formuler des recommandations pour le développement de réponses efficaces pour la promotion de l'équité genre en RDC. Le forum désire aussi obtenir des engagements des ministres et des acteurs politiques pour lutter contre le mariage précoce des enfants. Enfin, je termine avec le PNUD, qui poursuit la mise en œuvre du projet Emploi pour la paix avec l'appui du Fonds japonais qui contribue au rétablissement de la paix et de la cohésion sociale ainsi que la réinsertion socio-économique des populations affectées par la guerre à l'est de la RDC. Dans ce cadre, un atelier de renforcement des capacités a eu lieu et il portait sur la technique de montage d'un plan d'affaires simplifié. C'est ainsi ainsi que 4 dossiers ont été montés, à savoir une savonnerie semi-industrielle, une unité de production de miel, une porcherie moderne, ainsi qu'une coopérative de produits agricoles. Depuis août 2014, le PNUD appuie 3 ONG locales dans l'exécution du projet de réinsertion socio-économique des anciens combattants, des personnes retournées, ainsi que d'autres personnes vulnérables touchées par la guerre et l'insécurité, notamment à Luanga, à Rubaya, à Rutshuru, au Nord Kivu. Merci pour votre attention.
Merci à Geneviève Delenoy pour ces informations en développement. Colonel, bonjour.
Bonjour Charles.
En l'absence donc de nos collègues de l'équipe pays pour le volet humanitaire, on vous cède tout de suite le fauteuil et la parole.
Merci Charles. Bonjour à tous. Donc, un bref survol de la situation sécuritaire, en commençant par l'ouest de la République démocratique du Congo, où le calme a prévalu durant la semaine écoulée. En province orientale, les troupes onusiennes et congolaises maintiennent la pression militaire sur les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et de Bawele. Dans le territoire de Dungu, le 6 février 2015, les éléments supposés appartenir à la LRA ont intercepté un véhicule en déplacement sur l'axe Dungu-Faradje, à 2 km à l'ouest de la route nationale numéro 4, tué le chauffeur, blessé grièvement 3 individus et pillé des marchandises. Sitôt informés, les casques bleus ont été promptement déployés sur les lieux de l'incident pour dominer le terrain, administrer des soins de première urgence aux blessés et procéder à leur évacuation sanitaire vers les structures hospitalières de la MONUSCO de Dungu puis de Bounia. Les forces onusiennes et congolaises restent déterminées à mettre un terme aux activités négatives de ces rebelles ougandais contre les populations locales de cette région. En Ituri, les violations répétées des droits de l'homme commises par les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI au sud du territoire du Rumu constituent une menace sérieuse et une source de préoccupation majeure à la stabilité dans la région. En effet, plusieurs incidents majeurs attribués à ces miliciens ont été rapportés pendant la période sous examen. Ainsi, le 16 février 2015, 10 femmes résidant dans la collectivité de Walundubindi ont été kidnappées et violées par des éléments du FRPI. Le 17 février 2015, 2 autres femmes ont été tuées et 4 individus blessés au cours d'attaques lancées par des insurgés du FRPI dans la localité de Rwampara Manje, c'est à 12 km à l'est de Bogoro, de Mbetsi, qui est à 18 km au sud de Bogoro, et sur l'axe Marabo-Geti, à 60 km au sud-ouest de Bounia. Dans la province du Nord Kivu, les forces onusiennes et congolaises poursuivent la traque des rebelles ougandais de l'Alliance des Forces Démocratiques ADF dans le cadre de l'opération dénommée Umoja 3 ou Unité 3 en territoire de Beni. Le 18 février 2015, des rebelles de l'ADF ont lancé une attaque contre la localité de Matukaka, située à 6 km à l'est de Beni, tué une personne et kidnappé 10 autres. Les troupes d'intervention rapide des FRDC déployées promptement sur les lieux contrôlent la zone et y patrouillent de manière intensive, favorisant ainsi le retour dans leur foyer de 50 individus qui s'étaient réfugiés dans la forêt. Un autre civil a été tué et 5 autres portés disparus, dont une femme, lorsque des éléments de l'ADF ont attaqué la localité de Bao. Le climat sécuritaire dans cette région, quoique jugé volatile, demeure toutefois sous le contrôle des FRDC et des casques bleus qui, entre le 18 et le 20 février 2015, ont appréhendé 4 individus appartenant à ce groupe armé dans la localité de Mapobu, ceci à 3 km à l'est de Mayumoya, et dans la région de Mukondi, située à 15 km à l'est d'Erengeti. L'activisme des groupes armés a également été observé dans le territoire de Walikale, où le groupe Maïma Ndouma Défense du Congo Renouveau, NDCR, faction dissidente de NDC Tcheka aux ordres de Guidon, multiplie les attaques contre les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ainsi, les 16 et 17 février, ce groupe a lancé des attaques dans la région de Bukumbira, située à 25 km au nord de Pinga et 65 km au nord de Lufu. 2 rebelles FDLR et 10 autres individus ont été tués. 6 personnes ont également été blessées. Cet incident, comme vous le savez, a provoqué le déplacement des populations civiles en direction de Boulessa, ceci à 45 km au sud de Lufu, de Kanouné, 35 km au sud-est de Lufu et de Miriki, qui est à 20 km au sud de Lufu. Du 18 février 2015 à ce jour, nous avons enregistré 28 éléments des groupes armés qui se sont rendus aux troupes onusiennes et congolaises qui sont déployées dans la province. Pour ne citer que quelques-uns, nous avons accueilli 8 FDLR, 3 de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, et 16 du groupe Maïma Inyatura, pour ne citer que cela. Dans la province du Sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle et y accentuent la pression militaire contre les groupes armés. En effet, les FRDC ont initié des attaques contre les éléments du groupe Maïma et Rahia Mutomboki, faction Nguru Kule à Ikutu et faction Alexandre à Itanje, tué 3 insurgés et récupéré 9 armes. Des redditions ont également été rapportées durant la période sous examen, notamment celle du commandant de l'ancien groupe Maïma et Rahia Mutomboki, faction Sisawa, dénommé Félix Digondi, qui s'est rendu avec une arme et des munitions. Il faut également noter que le 24 février 2015, les FRDC ont lancé l'opération dénommée Sukola 2 dans le territoire d'Uvira, visant à neutraliser les rebelles des FDLR dans cette province. Au Katanga, le climat sécuritaire est marqué par les attaques récurrentes de miliciens pygmées contre les villages abritant les membres de la communauté Luba au nord-ouest du territoire de Manono et en direction de Nyozo. Des offensives répétées, lancées contre la localité de Nsenga-Chimbu, c'est à 120 km au nord-est de Manono-Centre, ont fait 18 tués et 17 blessés. Des rapports concordants font également état de la résurgence d'activités négatives des miliciens Baima et Bakata Katanga aux ordres du chef rebelle dénommé Bakuanga. Le secteur 2, quant à lui, est très calme. Concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1932 armées, dont 589 nocturnes, et avons fourni 80 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Colonel, merci. Et comme je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, notre invité aujourd'hui est Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC. Et avec nous aujourd'hui, il met donc fin à sa participation officielle aux différentes conférences de presse qu'il a eues avec nous. Vous savez qu'il était toujours présent lors de nos différents rendez-vous avec la presse nationale et internationale. Mais juste pour rappel, il faut dire que c'est après 5 ans et demi de fonction au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo que le général Abdallah Wafi vient donc d'être rappelé par son pays, le Niger, pour le représenter au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, comme ambassadeur. C'est en 2009 que le commissaire général Wafi fut nommé adjoint au chef de la composante police des Nations Unies à RDC. En février 2010, il fut nommé commissaire de la police des Nations Unies à RDC. Et en août 2012, il exerce ses fonctions de représentant spécial adjoint des Nations Unies en charge du pilier État de droit, cumulativement d'ailleurs avec ses fonctions de chef de police des Nations Unies. En mai 2013, il est confirmé dans ses fonctions avant d'être affecté en novembre 2013 comme chargé des opérations à l'est de la RDC. Le général Wafi donc nous quitte à la fin de la semaine pour prendre ses fonctions donc auprès des Nations Unies comme ambassadeur de son pays, le Niger. Il fut un grand ami de la presse nationale et internationale présente ici en RDC et bien entendu de la division de l'information publique. Et il a reçu d'ailleurs beaucoup d'hommages au cours de sa tournée à travers le pays ces derniers jours pour dire au revoir aux différents bureaux des Nations Unies à travers le pays. Et au nom de toute la grande famille de la presse, général Abdallah Wafi, je voudrais vous dire un grand merci au nom de tous les collègues ici réunis et ceux qui nous occupent au-delà même des frontières de ce pays grâce à Radio Okapi, grâce au site internet de Radio Okapi, etc. Et avant de passer à la séance de questions-réponses, je voudrais vous laisser la parole pour quelques mots en direction de ces journalistes qui sont ici présents à Goma. Je sais que vous les avez déjà rencontrés, mais surtout à Kinshasa. À vous.
Merci beaucoup, Charles. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme l'a dit M. Bambara, j'assiste aujourd'hui à la dernière conférence de presse hebdomadaire. J'ai tenu à être présent ici avec vous pour de façon formelle vous dire au revoir et vous témoigner de toute ma gratitude et tous mes remerciements pour la qualité de la collaboration que nous avons eue ensemble. J'ai une pensée particulière à mes amis de Goma avec qui j'étais il y a quelques jours pour le faire. et tous les autres aussi que j'ai rencontrés au cours des deux semaines écoulées où je me suis rendu à Kisangani, à Bunia, à Goma, à Bukavu, à Kalemie, à Lubumbashi, partout où j'ai rencontré tous les gouverneurs de province, Marcelin Chisambo, Julien Paluku, Moïse Katumbi, Jean Bamanissan et l'ensemble de nos staffs sur les bureaux de terrain que j'ai rencontrés aussi pour leur témoigner ma gratitude et tous mes encouragements pour la suite de la mission. Donc c'est avec beaucoup de regrets que je vais quitter la RDC après non pas 5 ans et 6 mois, mais 5 ans et 9 mois. Je vous remercie.